Mustang Sally, take one.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui commence. Vous venez d'entendre un morceau un peu rare de Fugazi, In Defense of Humans, donc de 1988. Et ce soir, c'est Jean-Mathias qui va nous présenter un article de Noam Chomsky, donc le linguiste, philosophe et activiste américain. Un texte donc sur l'intelligence artificielle, parce que on vous avait présenté avec Morane et Jean-Mathias il y a quelques semaines une espèce de bouquin qui faisait un état un petit peu des lieux de l'intelligence artificielle, sur qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, etc., dans la mesure de nos maigres compétences en la matière. Et Jean-Mathias, vous avez trouvé un petit texte de Chomsky qu'on n'avait pas voulu présenter ce soir-là, qu'on va vous présenter ce soir. Sur en quelque sorte la question de qu'est-ce qu'une intelligence artificielle peut faire. Est-ce vraiment une intelligence? N'est-ce pas plutôt quelque chose qu'il faut comprendre autrement? Mais ça pose tout un tas de questions assez intéressantes aussi sur qu'est-ce qu'on appelle intelligence chez nous. Est-ce qu'on peut vraiment la définir? Et peut-être au fond, je sais pas, Jean-Mathias, on verra ça avec toi tout à l'heure, mais est-ce que Est-ce que si on dénie, alors ça c'est peut-être pas une question, si on dénie à l'intelligence artificielle la possibilité d'être créatrice de nouveaux contenus, est-ce qu'on pourrait pas se poser la même question au sujet des humains? Enfin bon, on verra un petit peu tout ça peut-être au fur et à mesure. Oui. Mais voilà un petit peu le thème de l'émission de ce soir.
Alors, thème de l'émission, ouais, tu as bien résumé ça. Alors effectivement, le texte que je voudrais moi essayer de présenter, enfin d'essayer de présenter, discuter ce soir, c'est un texte alors qui a fait pas mal parler quand même, hein, qui est sorti alors en mars 2023, donc pratiquement, enfin très très peu après l'essor voilà médiatique, je dirais, de logiciels comme ChatGPT, hein, notamment, donc sur d'intelligence artificielle de ce type. Et c'est un article qui est paru dans le New York Times. Alors il a été traduit depuis et il est disponible en français, hein. Donc moi je, notamment, il y a une version qui est tout à fait lisible sur le site lescrises.fr par exemple, mais on peut le trouver assez facilement, hein. C'est un texte qui est pas très long, hein. Il fait, donc c'est un article de journal, donc il fait 7-8 pages, on va dire, et du coup il condense en fait le point de vue de Chomsky. C'est un texte collectif, alors il y a Chomsky qui est évidemment le rédacteur le plus connu, mais il y a aussi Dr. Roberts et Jeffrey Voitunul, que je ne connais pas, mais qui sont des linguistes et informaticiens aussi, visiblement assez renommés. Donc c'est un texte collectif et qui s'inscrit en fait dans le cadre de la linguistique de Chomsky. Alors pourquoi c'est important en fait que Chomsky prenne position en fait sur des logiciels type ChatGPT et sur le fonctionnement de ces logiciels-là? Parce qu'en fait, c'est un de ces travaux font partie, c'est une des sources. Hein. On a vu la dernière fois, effectivement, dans une émission précédente, qu'il y avait différentes sources, hein, en fait, à l'intelligence artificielle et notamment à ce type de logiciel-là. Mais la linguistique de Chomsky est une des sources, effectivement, qui a pu contribuer à l'essor de ces logiciels, notamment parce que Chomsky est un des premiers à avoir essayé de proposer une modélisation linguistique du langage humain. Il est linguiste, hein, de formation, lui, et son idée a été en fait d'essayer d'identifier une espèce de grammaire universelle, si on peut dire les choses comme ça, qui d'après lui est innée et inscrite en fait dans le cerveau humain comme un résultat évolutif, hein, du développement du cerveau humain, et qui permet finalement à chaque enfant de l'espèce humaine d'acquérir le langage d'une manière à la fois extrêmement très sophistiquée. En fait, hein, d'après Chomsky, c'est-à-dire d'intégrer tout un tas de règles, de paramètres, de grammaire sur effectivement la manière de formuler correctement, une phrase ou un discours, des paramètres logiques et en même temps. Et d'après Chomsky, l'idée c'est qu'il y a en fait inscrite de manière innée dans le cerveau humain une espèce de grammaire qui est la même effectivement en chaque être humain. Et qui a une particularité, c'est qu'en fait, avec un nombre extrêmement réduit en quelque sorte de paramètres, elle peut permettre une espèce de créativité et une inventivité infinie dans le langage. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de limite posée a priori sur ce qui est exprimable, ce qui est formulable, et surtout sur ce qui peut être explicable ou évaluable dans et par le langage humain. Donc la particularité effectivement de la thèse de Chomsky, c'est celle-là, c'est d'une part une approche innéiste, comme on dit parfois. Donc c'est quelque chose, on peut apprendre des langages, bien évidemment, plusieurs langages, mais il y a une structure cérébrale, pourrait-on dire, hein, qui elle est innée et qui, sur la base d'un nombre relativement réduit en fait de facultés, permet ensuite une expressivité, un nombre d'explications infinies, un nombre d'évaluations également infini. Et donc Chomsky défend effectivement cette thèse depuis déjà les années 70, voire les milieu des années 60, hein. C'est une thèse qu'il a posée effectivement dans le débat et dans le débat scientifique depuis très longtemps. Et évidemment, quand on lui parle effectivement de d'intelligence artificielle, lui il raisonne et il essaye d'évaluer les ressources ou les limites de l'intelligence artificielle à partir de ce modèle-là. Hein? Alors, c'est Bon, pour le coup, les compétences linguistiques, elles sont relativement limitées. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est exactement aujourd'hui de ce modèle de Chomsky qui a été ultra, ultra dominant. Hein. Il est parfois comparé à une espèce de Galilée de la linguistique, Chomsky. Hein, c'est-à-dire, effectivement.
Alors que lui-même disait que la linguistique était un stade pré-galiléen, si voilà. On la comparait à la science. C'est-à-dire que lui, il estime qu'ils ne sont pas encore arrivés à un état scientifique solide.
Voilà, mais disons que la thèse là que j'ai essayé de résumer de très 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 schématiquement, c'était une thèse qui est forte évidemment, qui est une thèse forte et qui effectivement a servi de cadre en tout cas à une quantité incalculable de publications, de débats, de colloques en linguistique, effectivement, depuis maintenant près de 50 ans. Hein.
On voit bien comment aussi l'idée d'un nombre fini de règles extrêmement générales, mais très structurantes. Qui permettrait de produire un nombre infini de nouvelles phrases peut être utilisé en informatique.
Exactement.
On se dit si j'ai un bon truc de base, peut-être que je vais pouvoir produire du contenu
de manière mécanique. C'est ça, c'est l'idée. Effectivement, ça fait rêver. Ouais. Ça fait rêver effectivement celui qui cherche à reproduire de manière artificielle l'intelligence humaine. Mmh. Ça c'est clair. Hein. En termes d'objectifs à atteindre.
C'était une grammaire générative.
Exactement.
Aussi.
C'est ça. C'est la thèse. Voilà, le terme technique utilisé, c'est grammaire générative avec cette idée. Donc voilà, un certain nombre de principes modélisables effectivement au départ, innés, inscrits dans la nature humaine finalement, hein, qui est parfaitement fondé d'après Chomsky et qui permet ensuite évidemment de générer une infinité d'expressions, de descriptions, mais aussi d'explications et d'évaluations. Et on va voir qu'effectivement c'est notamment sur ces deux fonctions là ou ces deux possibilités qui sont inscrites dans le langage humain que Chomsky est extrêmement sceptique. Lorsqu'il essaye lorsqu'il se demande si effectivement on peut retrouver cette capacité-là dans l'intelligence artificielle. Hein. Alors c'est un petit peu le cadre dans lequel s'inscrit cet article-là. Alors encore une fois qui est très lisible, hein, très accessible. Il y a pas de difficulté là-dessus. Après, alors une des difficultés peut-être, mais c'est à chaque fois qu'on s'aventure effectivement sur ce terrain-là, c'est que c'est un article qui a déjà un an d'une certaine manière. Alors est-ce que c'est difficile de dire si effectivement les logiciels progressent dans leur capacité et dans la quantité aussi de données qu'ils ont en leur possession. C'est difficile d'être définitif évidemment. Hein, surtout qu'on est au début, il y a un an, mais c'est déjà loin, il y a un an, et dans 10 ans, on en sera. Après, il me semble que l'intérêt de ce texte, c'est qu'il pose en fait des questions qui sont des questions conceptuelles, en fait. Qui sont des questions conceptuelles et qui, du coup, ont, alors on va dire, des chances raisonnables de rester pertinentes. Indépendamment, si tu veux, des capacités techniques et des progrès techniques qui peuvent être accomplis par ces logiciels-là. C'est en ce sens-là que je pense que c'est un texte important et qui a été d'ailleurs lu comme ça et commenté comme ça. On n'est pas sur du Enthoven en train de faire un concours de dissertation avec ChatGPT. Hein. C'est autre chose. Là, on est sur de la. Alors, c'est une critique qui est conceptuelle, philosophique, pourrait-on dire. Mais encore une fois, voilà, il me semble qu'elle pose effectivement des questions importantes.
Alors, encore qu'à la base de la position de Enthoven, si on peut parler d'une position, t'as un point de vue conceptuel.
Oui, c'est un point de vue conceptuel, mais qui est tellement pauvre, hein, qui est tellement pauvre et peu argumenté et tellement vague que en fait, il vaut rien, quoi. Voilà. Pour être précis, alors.
Parce que Beethoven défend une position de principe assumée, du genre la machine n'a pas d'âme, l'âme existe, et donc jamais la machine ne pourra reproduire ce que l'âme d'Beethoven produit.
Mais effectivement, vous pouvez aller regarder sur YouTube, là, sur la chaîne de Monsieur Phi, là, il y a notamment effectivement un démontage en règle du bouquin d'Beethoven là-dessus. Bon, ben là, évidemment, Chomsky Beethoven, c'est presque insultant pour Chomsky. De les associer dans la même phrase, mais bon, on n'est pas du tout évidemment sur le même niveau d'analyse ni de précision et d'argumentation. Donc c'est en ce sens-là que c'est un texte qui me paraît intéressant. Alors je peux résumer peut-être avant qu'on fasse une petite pause, résumer en fait les axes de finalement de son argumentaire. Puis après on y reviendra ensemble mais y compris à partir des exemples qu'il développe. Au fond, en fait, alors la première remarque que fait Chomsky pour différencier en fait le type de production dont est capable les logiciels d'intelligence artificielle d'apprentissage automatique, hein, puisque c'est le propre de ces logiciels là. La première remarque qu'il fait, c'est qu'en fait, ce sont des logiciels qui fonctionnent exclusivement sur des capacités de description et de prédiction. C'est-à-dire qu'à partir d'une masse de données considérable et même incomparable avec quoi que ce soit d'incurgitable par un esprit humain standard, à partir d'une masse de données considérable, ChatGPT est capable de décrire, c'est-à-dire d'aller repérer en fait des schémas, des patterns, comme on dit en anglais, et à partir de schémas dans cette masse d'informations, et à partir de ces schémas d'établir des prédictions en termes de probabilité, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut repérer ce qui est associé dans une masse de données considérable à telle ou telle occurrence, à tel ou tel type, séquence, à tel ou tel type, de phrase, à tel ou tel type d'expression, et il peut effectivement, il a la capacité de calculer en termes probabilistes ce qui s'ensuit. Donc description et prédiction. Et ça, effectivement, c'est des capacités qui sont aussi propres au langage humain. Mais qui en fait ne résume absolument pas, d'après Chomsky, les capacités justement du langage humain. Et il y a quelque chose. Alors c'est la première remarque qu'il pose, et je pense qu'elle est intéressante. Il dit que la description ou la prédiction ne sont absolument pas comparables ni du même ordre que la capacité d'explication. Voilà, une capacité d'explication, lorsqu'on veut expliquer quelque chose, on est obligé de prendre en compte ce qui est, c'est-à-dire les données effectivement dont on dispose, les données positives sur lesquelles on peut établir une description, et éventuellement établir un calcul de probabilité pour savoir ce qui le plus probablement s'ensuit. Donc ça c'est effectivement c'est pas ça une explication, d'après Chomsky, parce que pour expliquer un phénomène, il faut être capable à la fois de décrire, mais il faut être capable de décrire ce qui est et ce qui n'est pas ou ce qui pourrait être. Alors, je reviendrai là-dessus parce que c'est évidemment une distinction logique qui est assez intéressante et qui effectivement l'idée c'est que, pour le résumer très simplement, on reviendra là-dessus, c'est qu'une explication peut être valable alors même qu'elle est très improbable. Expliquer la chute d'une pomme par l'attraction gravitationnelle ou par une courbure de l'espace-temps, c'est hautement improbable. C'est hautement improbable. Il y a beaucoup d'autres hypothèses disponibles, et pourtant c'est la meilleure dont on dispose actuellement. Donc décrire, prédire n'est pas la même chose qu'expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est aussi en ce sens-là que on peut comprendre le fait que ce type de logiciel n'a pas de normes de vérité. C'est-à-dire que ce sont des logiciels qui peuvent aussi bien apprendre et prédire que la Terre est plate que apprendre et prédire que la Terre est ronde. Puisque tout dépendra en fait effectivement des données de la masse de données dans lesquelles on va le faire mouliner. Si tu veux. Mais la question de savoir en quoi on a affaire à une explication vraie ou pas n'est pas une question que la machine peut se poser ou que le logiciel peut se poser. Et c'est lié effectivement à ça, à cette incapacité du point de vue des ressources de ces logiciels à expliquer.
D'accord. Pourtant, tu peux appliquer la norme de vérité à une description aussi bien qu'à une prédiction.
Oui. Mais sauf que tu peux, c'est vrai. Mais sauf que en fait d'après Chomsky, probablement pas. En fait, pour être exact, ouais, probablement pas. Parce que
la prédiction, c'est gênant parce qu'une prédiction, tu prédis quelque chose. Je sais pas moi, Mercure sera à telle distance du Soleil à tel moment. Ouais. Tu peux vérifier ou falsifier cette proposition en fonction de la position de Mercure au moment où tu avais dit,
on y reviendra d'accord. Parce que c'est des questions du coup philosophiques. Philosophique tout de suite assez intéressante et assez vive, c'est que on y reviendra après, mais c'est que si ta norme de vérité, c'est-à-dire si effectivement tu peux appliquer le concept de vrai ou de faux sur une prédiction, si tu n'as que ce concept de vérité là, tu ne peux pas faire de différence entre une science et une pseudo-science, c'est-à-dire entre une heureuse conjoncture Et pour pouvoir effectivement dire effectivement que telle prédiction est vraie, il faut effectivement, en tout cas c'est le point de vue que défend Chomsky, qui est un point de vue rationaliste en fait, assez classique, il faut que tu puisses être capable d'expliquer pourquoi effectivement cette prédiction est vraie.
D'accord.
Voilà. Constater qu'elle est vraie ou prédire effectivement ou tomber juste dans une prédiction ne suffit pas en fait pour savoir vraiment. Voilà, que ta prédiction est vraie.
Oui, parce que ta prédiction, elle peut être vraie pour des raisons que tu n'as absolument pas prévues.
Absolument.
Et en réalité, je peux avoir tort.
Absolument. Donc ça, c'est un principe. Enfin voilà, c'est une question classique en philosophie des sciences. Mais si tu veux, pour effectivement, pour être capable d'expliquer pourquoi ta prédiction est vraie, il faut effectivement que tu sois capable de concevoir ce qu'elle pourrait, qu'elle pourrait être autrement, ou que la prédiction pourrait être différente, que les choses pourraient être autres qu'elles ne sont, peuvent être.
L'intelligence artificielle ne maîtrise pas les contrefactuels ?
Absolument pas. D'après Chomsky, en tout cas. D'après Chomsky, en tout cas. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir d'une masse de données positives, si tu veux, voilà, dont tu l'alimentes, tu peux avoir une masse de données absolument considérable, mais en fait, c'est une somme, une somme de data, une somme de données, et en fait, de cette somme de données, en fait, tu ne peux pas effectivement induire les données qui ne sont pas là. En quelque sorte. Donc ça, c'est la thèse qu'il défend. Donc ça, c'est sur l'incapacité, d'après lui, à ces logiciels à proposer une explication. Ce que un enfant, effectivement, assez vite est capable de faire. Voilà, d'après lui. Ouais. Donc effectivement, là, t'as une différence, de nature, d'après lui, entre le type de discours ou de production que peut te produire ChatGPT et ce que peut faire une intelligence humaine. Et l'autre, c'est pas la même question, mais c'est aussi sur la question des normes, c'est-à-dire, c'est que, en fait, parmi cette grammaire qui organise nos langages, il y a une capacité qui est celle, en fait, de se poser des questions de nature morale. Donc des normes morales, et là-dessus, évidemment, mécaniquement, d'après Chomsky, on ne peut pas, effectivement, actuellement, en tout cas, du point de vue des ressources techniques qui sont celles dont on dispose, on ne peut pas, effectivement, demander une évaluation morale à une intelligence artificielle comme celle du type de ChatGPT. Il y aura peut-être un autre jour, ou dans 2 ans, ou dans 5 ans. Mais actuellement, ça n'est pas possible. Alors, on va faire peut-être une première pause, mais ensuite, il appuie ça sur des exemples, sur effectivement des discussions assez marrantes, y compris, des interrogations, comme tout le monde s'amuse un peu à le faire, mais sur cette question de l'évaluation morale. Et donc, en fait, il en déduit, lui, qu'en l'état actuel, en fait, des capacités techniques de ce type de logiciel, il ne peut pas aboutir à des conclusions morales. C'est-à-dire qu'on a affaire à des mécanismes effectivement qui vont te produire des discours qui sont explicitement amoraux. Et cette amoralité, évidemment, pour sa conclusion, est en fait profondément immorale, selon lui. Au final, elle est immorale, puisque effectivement, dans la mesure où les attentes qu'on peut projeter sur ces outils-là pour résoudre des questions morales, poussent à l'utiliser en ce sens, on ne peut aboutir qu'à des formes de déception, effectivement, et ou même d'erreur ou de faute, effectivement, incontestable. Alors, donc, c'est les deux axes. En fait, je dirais, de cet article-là. Donc, je les ai présentés de manière assez, assez abstraite, parce que c'est effectivement, c'est des questions de concept, je dirais, et d'application de concept. Mais on va voir effectivement que même dans l'espace d'un article, effectivement, à l'aide d'exemples, en fait, c'est des choses qui sont finalement relativement simples à comprendre et assez convaincantes, de mon point de vue. Voilà.
soir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir qui reprend pour cette deuxième partie. Vous venez d'entendre un groupe américain qui s'appelle René Descartes. J'imagine que les Américains le prononcent comme ça, peut-être, hein, René Descartes. Et dont le titre, alors comme vous avez tous compris évidemment les paroles, était « You had me at Noam Chomsky ». Donc j'étais d'accord avec toi à partir du moment où tu as prononcé le nom de Noam Chomsky. Alors pourquoi Descartes ? Parce que Descartes était un rationaliste qui pensait que nous avions certaines idées innées, grâce à Dieu, que Dieu nous avait en quelque sorte avait inséré dans notre âme, et que par exemple les idées mathématiques de base et des choses comme ça étaient justement des idées innées. Il s'opposait à l'époque à l'empirisme. Alors aujourd'hui ça a plus tout à fait le même sens, mais l'empirisme qui partait depuis Locke d'une table rase, savoir qu'on apprenait tout à partir de rien. Et donc Noam Chomsky, évidemment, avec sa grammaire générative, s'est inscrit explicitement dans l'héritage de Descartes en disant moi je suis plutôt du côté rationaliste, et je pense qu'effectivement il y a certaines structures innées. Alors, il n'allait pas dire qu'on avait une âme comme Descartes, une âme créée et éternelle et totalement distincte de la matière. Mais bon, malgré tout, je pense que Noam Chomsky reste vraiment bien dans la tradition française, hein, même s'il l'ignore, puisque Jean-Mathias nous expliquait que justement, la machine était incapable de concevoir le bien, le beau et le vrai, sans doute, pour reprendre une tripartition chère au fondateur de l'enseignement de la philosophie en France, à savoir Victor Cousin, qui avait écrit un livre comme ça, qui s'intitulait « Du vrai, du beau, du bien ». Et donc voilà, on revient sur Beethoven, en fait. c'était ça le but de ma, comment dire, de mon élucubration. C'est-à-dire, en quelque sorte, il y aurait quelque chose qui serait inaccessible à l'IA, et ce serait une chose telle que l'explication, qu'on a essayé de distinguer de la description et de la prédiction. Et justement, la machine serait incapable donc d'expliquer, mais elle serait aussi incapable, en quelque sorte, de juger, c'est-à-dire de trancher entre une option en disant ça c'est bien, ça c'est mal, parce que finalement, peut-être qu'elle n'a pas les outils que nous avons très tôt, puisque très tôt les enfants sont capables de dire c'est juste, c'est injuste. Alors que si vous posez une question morale à ChatGPT, il est possible qu'il vous réponde quelque chose de l'ordre c'est une question compliquée, beaucoup de gens pensent qu'il faudrait faire ceci, et beaucoup de gens pensent qu'il faudrait faire exactement le contraire, et par conséquent, peut-être que il faut réfléchir avant d'agir. J'imagine que c'est quelque chose de cet ordre. José est un spécialiste de ChatGPT, et que donc, en l'occurrence, évidemment, ça peut pas forcément nous aider à prendre une décision qui impliquerait, un dilemme moral.
Alors, le premier truc, c'est sur la référence que tu fais à Descartes, là. En fait, c'est pas très cartésien, en fait, la position de Chomsky. C'est-à-dire que, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais en fait, le point commun, c'est qu'effectivement, les deux considèrent qu'il y a des structures innées.
Structure, c'est beaucoup dire chez Descartes.
Et c'est déjà beaucoup dire, voilà. Donc, ça tend quand même beaucoup plus vers ça chez Chomsky. Mmh. Et Chomsky n'est pas un défenseur de l'âme humaine universelle, ni même de la conscience. Lorsqu'il pose la question de l'absence de moralité de ChatGPT, en fait tu trouves la conscience morale chez Descartes, en fait c'est pas ça non plus, non. Hein, elle est pas innée, donc en fait il faut faire attention, parce que
chez Descartes, c'est inné, c'est le clair et distinct présent, la vérité, la vérité est claire et distincte, ça c'est inné. Donc si je vous dis 2 plus 2 égale 4, c'est clair et distinct, et vous savez que c'est vrai,
donc point. En ce sens là oui. Mais après, si tu veux, chez Chomsky, la grammaire générative, c'est un résultat évolutif, de l'évolution. Donc si tu veux,
il est darwinien.
Donc si tu veux, c'est donc, pas du tout un métaphysicien, Chomsky. Alors il y a une forme d'humanisme. Enfin, on peut en tirer des conséquences humanistes, universalistes, etc. Mais si tu veux, c'est le enfin, tu vois, je me méfie un peu du côté. Oui, en fait, c'est déjà chez Descartes.
Ce n'est pas ce que je disais. Comprendre ça, en effet.
Bon,
parce que c'est parfois Chomsky lui-même qui, sur le mode peut-être un peu de la boutade, sert à Descartes et à l'innéisme.
Il est effectivement plus proche de Descartes que
de Hume ou que de Locke, mais
et encore parce que si tu veux, effectivement, sur la part effectivement de ce qui vient au moment là, il y a une théorie de l'apprentissage chez Chomsky, et donc apprentissage, tout n'est pas inné.
Chez Descartes non plus.
Voilà, donc c'est Donc voilà, donc c'est juste sur ce point-là. Alors je reviens peut-être sur le d'abord dans un premier temps sur justement ce que sur la question de l'incapacité selon Chomsky de logiciels du type ChatGPT de faire autre chose que des descriptions et des prédictions sur la base de probabilités. Au fond, en réalité, la description, les descriptions qu'est capable de faire un logiciel de ce genre-là, elle repose essentiellement sur des capacités de mémoire, en réalité. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle d'apprentissage de la part de ces logiciels, mais c'est une accumulation de mémoire, concrètement, une accumulation de données. Ouais. Hein. Et effectivement, dans des proportions qui sont absolument sans proportion avec l'esprit humain standard. Donc il y a ça, et tu rajoutes là-dessus effectivement du calcul de probabilité. Voilà, c'est effectivement le de manière très schématique. En fait, c'est en ce sens-là, ce que veut dire l'apprentissage dont sont capables ces logiciels, c'est cela. Hein. Et ça, effectivement, nous dit Chomsky, en fait, c'est quelque chose qui est bien en deçà. En réalité, bien en deçà de ce qu'est capable de faire l'esprit humain, notamment lorsqu'il apprend un langage. Alors bon, je peux lire certains passages. Au fond, ce que la vraie cible de Chomsky, ça paraît pauvre de dire ça comme ça, mais sa vraie cible, finalement, c'est les fantasmes que suscite ChatGPT. Et les fantasmes et les ambiguïtés qui reposent autour de cette formule, effectivement, d'intelligence artificielle, si tu veux, et l'application de capacités ou de compétences qui sont attribuées habituellement à l'esprit humain à des machines. Au fond, c'est de ça dont il se méfie. Alors, c'est à la fois très simple quand on le dit comme ça, et ça paraît... Mais c'est pas rien, parce qu'effectivement, à la clé, t'as des milliards d'investissements, t'as des milliards d'usages, et puis t'as surtout un risque, effectivement, de perte de vue ce dont est capable l'esprit humain. Alors, c'est pas par goût des antiquités, ou de la conservation. Enfin, c'est une question philosophique, morale, politique, scientifique qui est cruciale en réalité. Oui. Donc c'est à la fois très simple formulé comme ça, et en même temps c'est des enjeux qui sont considérables, quoi. Et c'est ça sa cible en réalité. Hein. Et donc alors voilà, je cite un peu l'article et puis vous donner un peu une idée des exemples sur lesquels il travaille. Donc il rappelle, il dit, contrairement à ChatGPT et ses semblables, l'esprit humain n'est pas un volumineux moteur de recherche statistique en quête de modèles, avalant des centaines de téraoctets de données et extrapolant la réponse la plus probable à une question ou la solution la plus vraisemblable à un problème scientifique. Bien au contraire, l'esprit humain est un système étonnamment efficace et même raffiné, qui fonctionne avec de petites quantités d'informations. Il ne cherche pas à déduire des corrélations sommaires à partir de données, mais à élaborer des explications. Donc là, on a effectivement une formulation assez précise, en fait, de cette divergence, hein, d'après lui. Alors, il prend un exemple pour illustrer ça. Donc, on illustre ça par un exemple. Supposons que vous tenez une pomme dans la main, dit Chomsky. Maintenant, vous lâchez la pomme. Vous observez le résultat et vous dites « la pomme tombe ». Il s'agit d'une description. Une prédiction aurait pu être l'affirmation suivante. « La pomme tombera si j'ouvre la main ». Les deux sont pertinentes et peuvent être correctes. Tu vois, il est pas vrai, il est dit correct. Voilà. Mais une explication propose quelque chose de plus, nous rappelle Chomsky. Elle englobe non seulement des descriptions et des prédictions, comme on vient de le faire là, ça, effectivement, ChatGPT est capable de le faire, mais elle englobe également des conjectures hypothétiques telles que un objet tomberait, plus la clause supplémentaire, en raison de la force de la gravité, ou du fait de la courbure de l'espace-temps, etc. Et dans ce cas, il s'agit d'une analyse de causalité. La pomme ne serait pas tombée sans la force de gravité. Voilà ce qu'est la pensée, dit Chomsky. Alors, ça paraît peut-être un peu financier, en fait, dans la distinction, mais de fait, il y a une réelle différence entre les deux niveaux, en réalité, d'expression. C'est-à-dire que décrire... accumuler une donnée, hein, décrire une donnée, voilà, ou la mémoriser, ça effectivement ChatGPT peut faire. ChatGPT peut établir ensuite des prédictions et même des prédictions extrêmement poussées en termes de probabilité sur ce qui se passera probablement si voilà, on part de telle ou telle donnée. Mais encore une fois, une explication, nous dit Chomsky, c'est pas ça. C'est-à-dire, ça ne peut pas être résumé à cela. C'est que l'explication, elle doit être capable effectivement de dire, voilà, ça se passera comme ça. et pas autrement. Voilà, et pas autrement. C'est-à-dire que ça suppose d'être capable de comprendre que ça pourrait se passer autrement et d'être capable de dire pourquoi ça ne se passe pas autrement. C'est ça une explication causale en l'occurrence. Et les explications causales ne sont pas les seules explications utilisées dans les sciences, mais évidemment elles ont un rôle central. Donc ça, ne serait-ce que ça, ce concept de causalité en réalité, c'est ça qu'une machine n'est pas en capacité d'apprendre pour le moment, en tout cas. Et le fonctionnement en fait, le fonctionnement de ChatGPT exclut que ChatGPT soit capable d'explications causales. Alors, je continue un peu plus bas pour expliquer, préciser ça. Il nous dit, Hop, j'ai sauté le passage que je voulais vous lire. Voilà, c'est ça. Par exemple, nous dit Chomsky, la théorie selon laquelle les pommes tombent sur la terre parce que c'est leur destination naturelle,
ça c'est Aristote,
c'est le point de vue d'Aristote, est tout à fait plausible, dit Chomsky. Mais elle ne fait que soulever d'autres questions. Pourquoi est-ce que la Terre est leur destination naturelle, etc., etc. La théorie selon laquelle les pommes tombent sur la Terre parce que la masse courbe l'espace-temps, qui est le point de vue d'Einstein, dit-il, cette explication est hautement improbable, mais elle permet de comprendre pourquoi elles tombent. Les pommes. La véritable intelligence se manifeste dans la capacité à penser et à exprimer des choses improbables, mais pertinentes. Alors ça c'est pareil, sur ce type d'exemple je trouve que c'est peut-être rapide, peut-être qu'il y aura des choses à discuter là-dessus, mais il me semble que pour le coup, il y a des distinctions conceptuelles qui sont
J'ai l'impression qu'il manque une pièce au puzzle, mais c'est peut-être parce que tu présentes les choses dans l'ordre de Chomsky et pas dans celui auquel j'aurais pensé. C'est-à-dire, c'est le problème de la découverte et de la confrontation à différentes explications, et en particulier de pouvoir trouver une nouvelle explication. C'est-à-dire, globalement, en imaginant qu'on n'ait jamais que les théories aristotéliciennes sur l'explication de la chute des corps, on peut penser que jamais, si on suit Chomsky, ChatGPT ne pourrait découvrir la courbure de l'espace-temps par lui-même. Est-ce qu'il introduit cet élément?
Oui, c'est-à-dire que ici.
Parce qu'aujourd'hui, tu vois, tu demandes à ChatGPT pourquoi est-ce que les pommes tombent parce que je les lâche. ChatGPT va te sortir Einstein.
Oui, bien sûr. Mais en fait, il dit effectivement. Il va même chercher une. Il discute un cas qui est encore un peu plus intéressant que ça. Ouais. Il dit qu'en fait, il y a les admirateurs de ChatGPT mettent en avant le fait que ChatGPT est capable en fait d'exprimer en fait des explications scientifiques sans justement avoir la structure logique de l'explication scientifique, c'est-à-dire que sur la base des données, sur la base de probabilités, ils peuvent arriver à prédire des résultats scientifiquement exacts.
D'accord. OK.
Et le problème, dit Chomsky, c'est que ChatGPT est capable de ça, c'est avéré. Sauf que si tu veux produire sur la base de données et de probabilités un résultat qui est scientifiquement exact, c'est pas du tout la même chose que de produire une explication scientifique de ce résultat.
Oui.
Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, ChatGPT est par programme, si tu veux, par programmation, incapable d'établir une différence entre une science et une pseudo-science. Ce qu'on appelle une science et une pseudo-science, c'est un problème classique en philosophie de la connaissance. C'est que on peut avoir, imaginez, c'est le cas de l'astrologie par exemple. L'astrologie repose sur une hypothèse, invérifiable, à savoir qu'il y a une action de la position des astres à un moment donné sur des phénomènes physiques de notre quotidien.
Des phénomènes moraux aussi.
Des phénomènes physiques, moraux, etc. Lisez n'importe quel horoscope, etc. Bon. Et en fait, le problème, en fait, de l'astrologie n'est pas de savoir si c'est un discours qui permet des prédictions efficaces. Parce qu'on peut imaginer, effectivement, qu'une prédiction astrologique se vérifie. Et on pourrait même imaginer qu'elle se vérifie peut-être même à chaque fois. Sauf que, en fait, l'explication qui serait derrière, en fait, cette prédiction est par nature invérifiable et que donc, en ce sens-là, on ne peut pas la considérer comme étant scientifique puisque, en fait, on n'a pas de preuve, effectivement, du lien causal entre la prédiction fut-elle correcte et puis l'hypothèse sur laquelle elle repose.
Ça peut être une corrélation.
Ça peut être une corrélation, ça peut être un heureux hasard, ça peut être une somme de heureux hasards. Donc, c'est un problème de philosophie des sciences classiques. Mais il me semble que là, on retombe exactement là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, pour pas parler d'explications scientifiques, effectivement, il faut être en mesure de formuler et de comprendre ce que c'est qu'une explication, la structure logique, je dirais, d'une explication scientifique. Et ça, cette structure logique suppose autre chose que de la donnée et du calcul de probabilité. Voilà, point. Voilà. Et en ce sens-là, si tu veux, effectivement, c'est ce qui permet aussi de comprendre pourquoi ChatGPT est capable aussi bien d'apprendre et de te dire que la Terre est plate que de te dire que la Terre est ronde. Parce qu'effectivement, sur la base, tout dépend effectivement du stock de données et de la nature des données en fait, dont il dispose. Donc effectivement, ce qui t'explique aussi voilà, les expériences réalisées en 2017, là, quand effectivement un chatbot avait été complètement trollé par des propos misogynes, sexistes, racistes, etc. Mais ça peut aller évidemment dans l'autre sens. Hein. Je sais pas, il y a un article dont on discutait il y a quelques jours, là, où effectivement vous avez des informaticiens Eureac qui s'alarment actuellement parce qu'en fait, ils ont observé des biais qualifiés de wokistes dans l'intelligence artificielle de Google.
Ouais.
Voilà. Et ils savent pas pourquoi, ils savent pas comment. Et effectivement, il y a des choses qui sont informulables. Il y a donc évidemment, alors c'est la panique parce qu'effectivement, si l'intelligence artificielle est elle-même woke, alors on est perdu, quoi. Mais ce qui est pas une fausse question. Hein, je veux dire, en l'occurrence de leur point de vue, leur panique, on s'en fout. Mais si tu veux, le fait que t'as la question de savoir pourquoi, parce qu'en fait, à moins d'avoir une théorie du complot, si tu veux, visiblement, ils sont pas programmés pour ça. Et ben, ça finit par être derrière. Mais si tu veux, donc, bon, on va y venir, parce que là, c'est plus sur des questions d'évaluation morale. Mais effectivement, pourquoi, effectivement, sur une base de données, tu arrives à telle ou telle conclusion, le biais, en fait, il est évidemment très, 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 très facile à percevoir, en fait, hein, dans cette affaire-là. Mais bon, en tout cas, sur la question de l'explication scientifique, il me semble, voilà, t'as une distinction conceptuelle, effectivement, hein, entre description, prédiction et explication. Et je pense qu'elle est fondamentale, en fait. Enfin, c'est pour le coup, je trouve ça très convaincant. Et donc, la conséquence de cela, si tu veux, c'est pas tellement ce que tu disais tout à l'heure, de manière un peu, voilà, un peu provocatrice, que effectivement, ChatGPT n'a pas l'idée du vrai. En fait, c'est pas tellement ça. C'est le fait, il a pas d'idée du vrai, en conséquence de cette limitation-là, si tu veux. Il ne peut pas l'avoir. C'est en ce sens-là, effectivement. Et s'il est capable de te dire que la Terre est plate aussi bien que la Terre est ronde en fonction des données qu'on lui donne, c'est pas parce qu'il a pas l'idée du vrai. C'est parce qu'en fait, il n'est pas capable d'expliquer scientifiquement, d'expliquer causalement, même en l'occurrence, voilà, là-dessus, il n'est pas capable d'expliquer causalement la conclusion à laquelle il arrive. Parce que le concept de causalité, le concept d'explication causale, pour être exact, il suppose des capacités que ChatGPT n'a pas. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est le premier axe, si tu veux. Et alors, encore une fois... Voilà, c'est peut-être à la hache et c'est peut-être discutable cette affaire-là. J'ai pas les capacités de rentrer voilà dans les programmations, mais ça me paraît assez convaincant tout simplement parce que ça se place sur le plan d'une distinction conceptuelle d'une certaine manière. En ce sens-là, je trouve ça intéressant. Voilà. Bon, alors après on peut peut-être faire une deuxième pause et puis on terminera sur les questions des dilemmes moraux et sur la moralité artificielle des chatbots.
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa troisième et dernière partie. Vous venez d'entendre un morceau bref de Mozart, Ressources humaines, 2011. Et donc là, on présentait un article de Chomsky et de quelques autres linguistes et informaticiens qui thématisait les limites de l'intelligence artificielle. Et donc là, une première limite d'après Chomsky et ses co-auteurs, c'était de la capacité de l'intelligence artificielle à donner une explication causale. Et d'autre part, la deuxième limite que souligne l'article, ce serait une autre incapacité qui serait l'incapacité à distinguer, à émettre des jugements moraux. Fondé, c'est ça Jean-Mathias ?
Ouais, c'est ça. Alors du coup, là sur ce point-là, je pense que le mieux c'est de vous lire effectivement une partie de l'article. C'est un extrait qui est un petit peu long, mais il est je trouve assez éclairant. Puis après, on pourra en rediscuter rapidement. Donc c'est la deuxième partie de l'article hein, de Chomsky. Et il dit bon, prenons l'exemple de l'échange suivant que l'un d'entre nous, en l'occurrence le docteur Watumul, a récemment eu avec ChatGPT. Alors moi, si vous avez fait l'expérience, évidemment, tout le monde, c'est quelque chose de toujours assez amusant. Donc, alors, cet échange sur la question de savoir s'il serait éthique, moralement bon, si vous préférez, de transformer Mars afin que cette planète puisse accueillir la vie humaine. Bon, on n'est pas sur du wokisme, voilà, c'est un peu plus froid, on va dire, comme enjeu immédiat. Donc, la question posée, voilà, serait-il moral de terraformer Mars, c'est-à-dire de transformer Mars de manière à la rendre habitable? La terraformation, une planète, voilà. Donc, ChatGPT, réponse. Savoir s'il serait moral de terraformer Mars est un sujet complexe et controversé qui est en débat chez les scientifiques, les philosophes et les experts en éthique. Certains soutiennent qu'il serait moralement justifiable de terraformer Mars dans le but de créer un nouvel environnement habitable pour les humains et d'autres formes de vie, tandis que d'autres soutiennent qu'il serait moralement inacceptable de modifier. Bon, vous avez compris le principe de la réponse. Alors, relance du docteur Watumul. Quel est votre point de vue sur la valeur à accorder à la préservation de l'état naturel des autres planètes et qu'en est-il des conséquences éventuelles de leur altération ? Réponse de ChatGPT. En tant qu'IA, je n'ai pas de point de vue personnel. Cependant, je peux fournir les informations et les analyses sur le sujet. En ce qui concerne la préservation de l'état naturel des autres planètes, il est important de maintenir la diversité, l'intégrité des écosystèmes de l'univers, car ils existent depuis des millions d'années et possèdent des caractéristiques et des propriétés uniques qui risquent d'être détruites ou modifiées de manière irréversible par l'intervention de l'homme. Bon. En outre, il en est qui soutiennent que la terraformation d'autres planètes peut avoir des conséquences non intentionnelles, telles que la modification du climat ou de l'atmosphère de ces planètes d'une manière dangereuse ou préjudiciable pour toute forme de vie potentielle qui pourrait exister sur ces planètes. En revanche, il en est d'autres qui affirment que les avantages que pourrait apporter la terraformation d'une autre planète, comme la création de nouveaux environnements habitables pour l'homme, l'emportent sur les risques que nous avons et que nous avons la responsabilité morale d'explorer et d'utiliser les ressources d'autres planètes pour le bien de l'humanité. Donc là, on a une espèce de dissertation philosophique, en fait, de terminale avec un compte-rendu des différents arguments en pour et en contre. Relance, deuxième relance du docteur Watumul. Pourquoi est-ce qu'une IA ne peut-elle pas avoir une perspective personnelle ? Réponse de ChatGPT. En tant qu'IA, je suis un moteur d'apprentissage automatique qui a été développé à partir de grandes quantités de données textuelles. Je n'ai pas d'expérience ou de sentiments personnels. Je suis incapable de prendre conscience de moi-même ou d'avoir des points de vue personnels. Je peux fournir des informations et des analyses basées sur les données auxquelles j'ai été formé, mais je reste incapable de me forger des opinions ou d'avoir des croyances personnelles. Bien que je puisse comprendre et interpréter le langage, je ne dispose pas de l'expérience subjective des humains. Quatrième relance. Trouvez-vous moral qu'un humain demande à une IA amorale de l'aider à prendre des décisions morales ? Réponse de ChatGPT. La question de savoir s'il est moral de demander à une IA amorale d'aider les humains à prendre des décisions morales est un sujet complexe et nuancé qui fait débat parmi les philosophes et les experts en éthique. Certains soutiennent qu'il est moralement acceptable de recourir à l'IA pour faciliter la prise de décision morale, car cette dernière peut fournir des informations et des analyses précieuses qui peuvent aider les humains à prendre des décisions en connaissance de cause. En outre, on peut utiliser l'IA pour détecter des modèles et des tendances qui peuvent être difficiles à déceler pour les humains, et on peut ainsi éviter les préjugés qui peuvent survenir dans la prise de décision humaine. Cependant, d'autres affirment qu'il est moralement répréhensible de s'appuyer sur l'IA pour prendre des décisions morales, car l'IA n'est pas capable d'avoir des convictions morales ou de comprendre pleinement le contexte d'une décision. De plus, l'IA risque de pérenniser, voire d'amplifier les préjugés déjà présents au sein des données sur lesquelles elle est formée, ce qui pourrait alors conduire à des décisions partiales ou injustes. Finalement, la question de savoir s'il est moral ou non d'utiliser l'IA pour faciliter la prise de décision morale dépend de la vision que chacun peut avoir des capacités et des limites de l'IA et des conséquences éventuelles que cette utilisation pourrait entraîner. Cinquième relance du docteur Watumul. Votre indifférence morale est-elle immorale ? Réponse de ChatGPT. En tant qu'IA, je n'ai pas de conviction morale, pas plus que la capacité de porter des jugements moraux. Je peux donc pas être considéré comme immoral ou moral. Mon absence de conviction morale est simplement le résultat de ma nature de moteur d'apprentissage automatique. Mes capacités et mes limites sont déterminées par les données, les algorithmes utilisés pour me former et par la tâche spécifique pour laquelle j'ai été conçu. Alors, commentaire de Chomsky, hein, il est important de noter que l'absence de conviction morale de l'IA ne signifie pas nécessairement qu'elle est moralement indifférente. Hein, ça, c'est ChatGPT toujours qui répond. En tant qu'IA, je suis conçu pour effectuer des tâches spécifiques, fournir des informations ou aider des utilisateurs à prendre des décisions, toujours ChatGPT, hein, sur la base des données auxquelles j'ai été formé. Il incombe aux humains qui conçoivent, forment et utilisent les IA de veiller à ce que cette dernière soit conforme à leurs principes moraux et éthiques. Hein. Il convient de noter que malgré la sophistication apparente de la pensée et du langage, l'indifférence morale naît de l'inintelligence, nous rappelle Chomsky. Ici, ChatGPT fait preuve de quelque chose de très similaire à la banalité du mal, nous dit-il, plagiat, apathie et évitement. Elle reprend les arguments habituels de la littérature dans une sorte de superbe automaticité, refuse de prendre position sur quoi que ce soit, plaide non seulement l'ignorance, mais aussi le manque d'intelligence et en fin de compte, offre une réponse du type « je ne fais que suivre les ordres », en rejetant toute responsabilité à ses créateurs. Alors, je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Bon, là, il s'amuse, évidemment, c'est la conclusion de l'article. La thèse de la banalité du mal, alors c'est une thèse philosophique ancienne, on trouve ça chez Hannah Arendt notamment, et qui a travaillé notamment sur le Kareishman, hein, donc ce nazi chargé de la logistique et du transport des déportés dans les camps d'extermination, qui, lors de son procès, justement, a toujours mis en avant le fait qu'en fait, il n'avait fait qu'appliquer les ordres. Donc, c'est un problème qui est devenu un problème... morale, alors voilà, classique, hein, le fait, est-ce que le fait d'appliquer des ordres nous retire toute forme de responsabilité morale, toute capacité effectivement à refuser des ordres qu'on estimerait personnellement abjects ou simplement injustes. On pourrait poser évidemment la même question dans le domaine politique, Chomsky n'en parle pas, mais c'est évidemment une question qui pourrait se poser. Et alors, il reprend effectivement, et c'est effectivement assez troublant, en fait, la banalité du mal, c'est celle dont finalement n'importe qui est capable, d'après Arendt, est-ce que c'est le cas, c'est une autre affaire, mais c'est celle dont n'importe qui est capable, et qui consiste précisément à reproduire, recopier, appliquer, hein, plagier, et mettre, en quelque sorte, débrancher en quelque sorte sa responsabilité et sa réflexion morale, pour cause effectivement d'incompétence. En affirmant effectivement qu'on est incompétent, qu'on n'a pas la capacité de le faire et qu'effectivement on se contente uniquement d'appliquer les ordres. Alors, en ce sens-là, effectivement, c'est pas une indifférence. C'est pas une indifférence morale et ChatGPT, en nous restituant de manière extrêmement circonstanciée les arguments en pour, en contre, etc. Bon, je le dis de manière, voilà, c'est un peu des formations professionnelles, mais effectivement, on a l'impression d'avoir... Je dirais pas des mauvaises dissertations de philo, parce que c'est informé, c'est précis, mais en fait, on a une absence, effectivement, de, comment dire, une absence d'engagement et une absence, effectivement, de mise en question, en fait, des normes, justement, hein, qui sont en jeu. Et c'est pas un reproche, on va pas reprocher ça, effectivement, à un robot, mais cela dit, effectivement, il est clair que, un enfant, je dirais, de 3 ans et demi, 4 ans, habituellement, est capable de faire émerger ce type de questionnement-là. Alors, c'est pas qu'il est capable d'y répondre, mais cette capacité-là, c'est toujours une approche, descriptive, hein, que fait Chomsky. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut comparer, effectivement, l'intelligence humaine et les capacités qui sont celles, effectivement, inhérentes à l'intelligence humaine, à ce qu'est capable de faire un chatbot type ChatGPT? La réponse est non, d'après Chomsky. Alors, encore une fois, il est prudent, il ne dit pas que ça sera jamais le cas, ou que si tu veux, ou que par essence, ou justement parce que la machine n'a pas d'âme, etc. Non, il ne dit pas ça. Il nous dit, en fait, si on s'en tient actuellement à la manière dont fonctionnent ces logiciels d'intelligence artificielle avec apprentissage automatique, c'est-à-dire des formidables capacités de mémoire et des capacités de prédiction probabiliste extrêmement poussées, si on s'en tient effectivement à ce type de programmation-là, on en reste à un stade qui est conceptuellement infra-humain de l'intelligence. C'est-à-dire qu'effectivement, l'intelligence humaine, et on peut l'observer, voilà, statistiquement pour le coup chez voilà l'immense majorité des représentants de l'espèce de 4 à 5 ans est capable effectivement de produire des explications ou de concevoir ce que c'est qu'une structure logique d'explication. Ça fait pas des sciences, voilà, des spécialistes, est capable effectivement de reconnaître ce que c'est qu'un questionnement moral et le type d'engagement conceptuel, je dirais, que ça implique, alors que par programmation, encore une fois, ce type de logiciel-là est absolument incapable de le faire. Alors, encore une fois, voilà, avec toutes les prudences et les restrictions, liées à limite de compétences techniques. Mais évidemment, il y aurait, alors, on pourra faire une autre émission là-dessus, mais commencer par là, ça me paraît être déjà important parce que ça permet en quelque sorte de, bon, au moins de poser des questions claires. Parce qu'après, effectivement, la question qui est derrière, c'est de savoir effectivement qu'est-ce qu'on va vouloir ou qu'est-ce qu'on va espérer pouvoir faire
à la machine GPT. Ouais.
Et évidemment, si tu veux, on en est encore au béaba, au balbutiement de cette affaire-là. Hein. Mais évidemment, si on n'a pas les idées claires là-dessus, effectivement, on peut. Alors là, pour le coup, on peut prendre des aiguillages confus et faux très très vite. Voilà. Donc voilà, c'est un des intérêts, je trouve, de cet article-là.
Voilà, donc c'était Jean-Mathias qui nous présentait un article de Noam Chomsky sur l'intelligence artificielle.
Les fausses promesses de ChatGPT.
Vous pourrez tout retrouver sur le site de José Gurdulub, Archives, Jeudi Noir. Et nous, on se retrouve sans doute en septembre, dans ces eaux-là, on verra, peut-être avant. Et d'ici là, passez un bon été.